podcast.
Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans l'esprit des fêtes à un mois de Noël, mais il fait très froid en studio. On va réchauffer nos cœurs ensemble avec Olivier Paiement. Salut, Olivier.
Salut, les gars. Ça va?
Ça va bien, toi?
Ouais, c'est pas à Saint-Lambert qu'on a déménagé, c'est à Winnipeg.
Ah, il fait vraiment frais. Salut, Hugo.
Salut, les gars. Ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien.
Mais tu sais, en même temps, il y a des choses pires que d'autres. Nous, on a froid, mais il y a des joueurs qui sont malheureusement, eux, au carreau, qu'ils sont blessés. Il y a vraiment eu une hécatombe là, dans la dernière semaine depuis notre dernier podcast avec le Canadien de Montréal. Alex Newhook s'est blessé, Kirby Dach s'est blessé et Caden Gooley, on a appris de bien mauvaises nouvelles à son endroit. C'est fou à quel point dans le hockey, ça change rapidement, les gars. Autant il y a quelques semaines à peine, on était très enthousiastes et je pense qu'on avait raison de l'être avec le club. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui commencent à regarder pour une loterie potentielle. C'est fou à quel point ça change vite.
C'est le pire dans tout ça, c'est que est-ce qu'on est vraiment surpris? Non. Caden Gooley, il est blessé à chaque année.
On savait, oui.
Alex Newhook a déjà subi une grosse blessure avec le Canadien. Kirby Dach, blessé à chaque année. Patrick Laine, blessé à chaque année. C'est dommage, là. Puis en plus, ces gars-là, à part Patrick Laine, ils connaissaient tous des super belles saisons. Là. Alex Newhook connaissait les meilleurs moments de sa carrière. Kirby Dach, on voyait que ça s'en venait enfin. Mais je pense que c'est juste que là, c'est la confirmation que ces gars-là, tu peux pas miser sur eux pour l'avenir de l'équipe. On le sait que c'est des joueurs fragiles, puis il faut que tu bâtisses ton équipe en conséquence.
Ouais, mais tu peux pas pour autant les écarter. Je pense pas que Caden Gooley s'en va nulle part.
Non, c'est pas en mode faut les écarter, mais plus tu bâtis ton équipe sans les prendre en compte. Quand ces joueurs-là vont être en santé, c'est un plus pour toi.
Ouais, c'est ça.
Tu peux pas dire Kirby Dach ou Alex Newhook, je m'attends à ce qu'il soit sur mon deuxième trio pour l'avenir. Tu peux pas dire Caden Gooley, ça va être mon deuxième défenseur gaucher derrière Lane Hutson. Faut que tu construises ton équipe en conséquence de ces gars-là. Il n'y a aucune garantie qu'ils vont jouer avec moi autant en saison régulière qu'en série.
Je comprends, mais en même temps, si Gooley n'est pas sur ton top 4, là, ça n'a pas de bon sens. Là. T'sais, il faut que...
Mais t'as-tu confiance qu'il va être sur le top 4, disons, rendu en série?
Ben non.
Ouais, non, c'est ça.
Parce que ses performances, oui, mais de par son état de santé, non, malheureusement.
Ben non, c'est ça. Mais tu sais, éventuellement aussi, là, c'est tout dépendant aussi de la direction que le Canadien va prendre, mais il va peut-être avoir une sélection à faire aussi. Okay, qui t'es prêt à garder, mettons, parmi ces joueurs-là qui sont blessés souvent? Puis qui t'es prêt à laisser aller? Puis on dirait que moindrement qu'ils connaissent une bonne saison, qu'ils ont leur air d'aller, on dirait qu'on oublie qu'ils sont fragiles, ces joueurs-là. Puis après ça, tout le monde est déçu encore une fois qu'ils sont blessés, mais ça fait partie du joueur, ça fait partie de la carrière.
Ouais. En même temps, Gooley, il s'est blessé. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute ce qui arrive présentement? Le Canadien a une part de responsabilité. Ils ont très mal géré le dossier.
Ouais.
Le joueur se blesse au camp d'entraînement, aggrave sa blessure au début de la saison et il est mis à l'écart. On opte pour la solution miracle avec un joueur qui est prône aux blessures que non, on ne l'opérera pas puis il va être correct. C'était une très mauvaise idée. On aurait dû l'opérer dès le départ et se dire, regarde, on va tirer le plaster tout de suite, on va le perdre pendant 2 mois, ça va faire mal, mais au final, c'est juste 1 mois de plus que l'autre réhabilitation, et après ça, il devrait revenir à 100% et on pourra l'avoir pour le reste de l'année. Je m'excuse, mais je pense qu'on a pris la mauvaise décision dans ce dossier-là.
Parce qu'on précipite, on voit la glissade, tu sais, puis on... Pas qu'on panique un peu, mais on veut garder le standard qu'on a établi en début de saison, puis ça va arriver dans certains cas. Souvent, ça arrive plus en fin de saison quand on est dans une lutte aux séries où on veut essayer
de se qualifier. Ouais, mais c'est normal de faire ça.
Exact.
C'est pas pareil.
Non, mais c'est ça. Mais mon point était justement que c'est ça. En début de saison, tu peux te permettre de faire ça.
Tu sais, personne n'aurait chialé si il avait expliqué, regarde, on aime mieux prendre plus de précautions dans le cas de Gooley pour être sûr qu'il revienne à 100%, à la place de précipiter son retour. Il était excellent en début de saison avec le Canadien, mais il n'a jamais nécessairement eu l'air super confortable. Là, il se blesse, il recommence à patiner, il se sent pas bien, finalement, il se fait opérer. Là, on parle de quoi? Je pense que c'est
2 mois.
Deux mois. Mais il n'y a rien qui dit que dans 2 mois, il va être à 100%. Il y a une réhabilitation à prendre en compte à travers tout ça. Non, c'est vraiment dommage là, pour un gars qui... Tu sais, c'est comme toutes des malchances dans le cas de Gooley, mais les malchances finissent par s'accumuler. Ouais. L'an passé, c'était le patin qui le coupe. Puis l'année d'avant, c'est ci. Puis c'est ça.
C'est qu'il y a la poisse, au final. C'est toujours sur lui. Puis honnêtement, autant nous, c'est frustrant comme amateur. Là, on regarde ça et on est comme Colin! Imaginez l'athlète.
Ben oui,
ben non, ça doit être extrêmement dérangeant.
C'est Fix, je pense, qui me disait la stats. Caden Goulet va avoir seulement joué 66% de ses matchs avec le Canadien depuis qu'il fait partie de l'équipe. Kirby Dach, c'est 50%.
Ben ça, c'est fou.
C'est tellement. Alors que Nick Suzuki, lui, c'est 100%.
C'est 100%.
Ouais, 100% vrai.
Non.
100%. En même temps, Dach, tu veux dire, tu joues deux matchs sur une saison de 82 matchs. C'est sûr que ça aide pas cette statistique-là, mais ça fait quand même partie des matchs ratés.
Selon vous, laquelle des trois pertes fait le plus mal?
En ce moment?
Ouais, Newhook, Goulet, Dach.
Moi, je dirais Newhook, honnêtement, parce que...
Joueur d'impact.
Ça fait deux fois que tu fais des calls controversés, mais ça s'avère vrai dans les niveaux qui suivent.
C'est vrai parce que quand tu prends ce qu'il a apporté depuis le début de l'année, puis la stabilité, entre guillemets, je vais mettre ce mot-là, qu'on a trouvé au sein de genre ce deuxième trio-là avec Demidov et Kapanen, pas qu'on pensait qu'on avait les réponses, puis qu'on était capable d'aller de l'avant avec ça, mais Alex Newhook amenait quelque chose, tu donnais confiance à l'organisation, tu donnais confiance aux partisans, puis là, tu vois clairement que la renaissance de ce joueur-là fait vraiment mal en ce moment. On dirait plus que les autres.
Ouais, moi, je vais y aller aussi avec un attaquant. J'aurais pris Kirby Dach. Je comprends très bien Alex Newhook. Je prends pas Caden Goulet, bien que je pense que c'est le meilleur des trois, parce que Jaden Struble et Arber Jackay sont quand même pas si mal pour remplir les souliers.
Ouais.
Tandis qu'en perdant les attaquants, on les remplace par Jared Davison et Joshua Roy. Je pense qu'il y a une différence quand même de calibre à ce niveau-là. Fait que je pense que ça fait plus mal de perdre un attaquant, tandis que Goulet, bien que ça ferait toute la différence s'il était dans la formation de par ses aptitudes, mais aussi de par son leadership. Mais je pense quand même que Struble et Jackay sont des joueurs plus près de la Ligue nationale de hockey. Ce sont des joueurs de la Ligue nationale de hockey, contrairement à un Joshua Roy qui, à mon sens, c'est un joueur de la Ligue américaine.
Mm-hmm. Moi, j'y vais avec Goulet parce que pour moi, il a causé un trou en étant absent puis on n'est pas capable de le remplacer. Là, t'as Mike Madison qui joue quasiment 30 minutes par match. C'est pas viable.
Mais il les remplace, justement.
Ouais, il compense.
En surtaxant les autres.
Oui, mais c'est pas viable, ça. C'est quoi le plus gros problème du Canadien en ce moment? On accorde trop de buts. Défensivement, c'est brouillon. Désavantage numérique en arrache. Ça, c'est toutes des places où Caden Goulet t'aiderait.
Oui, sauf qu'on produit moins à l'attaque puis on a un standard moins élevé à l'attaque. On est capable de compenser la défensive en donnant plus de temps de glace à d'autres devs de calibre NHL. Là, ouais, tu t'en vas chercher deux gars NHL. Qui est clairement pas sur le même niveau. Moi, c'est comme
ça. Caden Goulet, c'est ton meilleur défenseur défensif. Là.
Ah oui, on s'en rend compte.
Oui, 100%.
C'est juste que moi, je pense que c'est pas un hasard pourquoi on a placé Zachary Bolduc sur la première unité et Slafkovský sur la deuxième. Parce qu'on est passé d'un système où est-ce que le Canadien avait trois trios qui pouvaient, de façon légitime, amener de l'attaque.
Ouais.
Premier trio, la deuxième unité avec Kapanen, Demidov et évidemment Alex Newhook. Et finalement, Dach et Bolduc, tranquillement, il y avait quelque chose qui s'est...
Ouais.
Mais là, finalement, il n'y en a plus de troisième unité. Bon, ben là, on va placer Bolduc sur la première, puis on va essayer de rebooster à la deuxième, puis on va rouler potentiellement à deux trios qui fonctionnent, puis deux trios qui...
On se croise les doigts.
On se croise les doigts, puis c'est des passagers. En tout respect pour Josh Anderson.
Honnêtement, là, je veux pas dire qu'il faut absolument, mais ça presse que Kent Hughes... aller chercher de l'aide. Puis pas besoin d'être une vedette. Là. C'est plus une question d'aller chercher un deuxième centre ou un Jordan Kyrou ou quoi que ce soit.
Établi
là. Va chercher un joueur établi, un vétéran pour jouer sur le bottom six. Ça peut être un ailier, ça peut être un centre parce que là, tu sais, avec Joshua Roy et Jared Davidson, ça fait 4 recrues sur 12 en attaque. Joe Veleno est invisible. Brendan Gallagher est quasiment une nuisance. Tu sais, ça fait quasiment. Tu sais, tu l'as dit, Anderson en arrache un petit peu. Ça fait quasiment la moitié de tes attaquants qui sont soit des recrues, soit ils sont complètement inutiles, soit ils sont tout simplement pas de calibre LNH. Là. Mm-hmm. Tu peux pas vivre plus que quelques semaines encore avec ça, je pense.
Ouais, puis je pense que je suis d'accord. Moi aussi, je m'attends à ce qu'on ait une acquisition, mais ce sera pas une grosse affaire.
Non, je
pense que c'est pas pour rien là, qu'on a regardé la situation de David Kempf de frais, qu'on était dans le dossier et que finalement il a signé un contrat d'un an avec les Canucks de Vancouver et qu'on a placé un droit de réclamation sur John Beecher.
Exact.
Clairement, là, on est intéressé par qu'est-ce qu'il y a disponible, qu'est-ce qui pourrait venir nous donner un coup de main sans que ça coûte trop cher, mais juste pour essayer d'un petit peu... Là, un second souffle à tout le monde, permettre à tout le monde de respirer.
Là, dans les dernières heures, Elliot Friedman a mentionné le nom de Alex Texier. Tu sais, aussi, c'est pas un joueur qui va se greffer sur ton top 6, mais c'est un joueur de la Ligue nationale. pour moi, t'as vraiment juste besoin de ça. Là. Quelqu'un qui va boucher un trou temporairement.
Ouais.
Parce qu'à la limite, Davidson, j'ai pas de problème qu'il reste à Montréal. Pour moi, il a montré une belle intensité. Mais Josh Roy, on peut-tu mettre fin à cette expérience-là?
Non, c'est difficile. Là. Puis il peut faire partie d'un package. Puis c'est là que tu te rends compte, mettons, qu'un gars comme Sam Blais, ça a été quand même intéressant de l'avoir en ce moment-là.
Exact. Tout ça parce qu'on ne voulait tout simplement pas le laisser regarder la game de haut.
Un vétéran de 30 ans. Là, tu sais, c'est
pas on pensait pas qu'il allait être réclamé. On voulait qu'il continue à garder la forme. C'était une erreur. Là. On ne voudra plus faire ça. On souffre énormément de profondeur présentement.
Joe Veleno, c'est pas normal que Joe Veleno, ça fait 15 matchs de suite qu'il joue. Puis que gars a pas un point.
Ça, j'allais dire.
Il a pas un impact.
Il apporte
rien. Il y a rien.
Il patine, puis il gagne quelques mises au jeu. Là. C'est pas plus que ça.
Non, je reviens sur Alexandre Texier, parce que c'est intéressant quand même comme discussion. Je suis pas si sûr que je t'ai emballé de voir Alexandre Texier débarquer à Montréal.
Ouais, c'est quand même un gars avec des squelettes un petit peu dans son placard.
On entend toutes sortes de trucs à son sujet, puis c'est fragile quand même une chambre de hockey, là, des fois d'entrer un individu qui... Puis honnêtement, je le connais pas, là, c'est juste de ce qu'on lit à gauche et à droite, de ce qu'on entend... C'est quelqu'un quand même qui a fait un petit peu de vague où est-ce qu'il est passé. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée?
Il ne fit pas nécessairement dans la culture un peu que Kent Hughes et Jeff Gorton ont établi. Là.
Exact. Non, parce qu'il y a des mains, il y a des skills. Souvenez-vous du but à une main qu'il avait fait en tir de barrage. Ouais. C'est rien contre son talent. Je pense que c'est entre les deux oreilles là, que moi, je suis moins convaincu. Ouais.
Mais Friedman, en même temps, il ne sort pas des infos pour rien. Ouais, exact. Quand une info sort aussi, il y a tout le temps quelqu'un qui veut que ça sorte. Est-ce que c'est peut-être juste l'agent de Texier qui sort le nom du Canadien parce qu'il sait que ça crée un buzz, puis peut-être qu'une autre équipe va lever la main? Ça se pourrait aussi.
Ouais, puis tu sais, il faut tout le temps que tu fasses un peu le ratio année passée dans la Ligue nationale puis équipe que tu as faite. Il y en a quand même. Non, mais c'est vrai, il y en a fait quand même.
C'est pas un mauvais calcul, c'est vrai.
Tu sais, puis tu vois le nombre d'organisations qu'il a fait justement. Je pense que lui, il a moins de 300 matchs d'expérience, peut-être un peu plus en fait, mais.
240.
Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, puis t'as trois équipes, là. Il a fait quoi, les Hurricanes, les Blues, puis les Blue Jackets?
Non, je vais te faire son parcours, là, mais tu sais, en gros, c'est un Français. Après avoir été repêché, il a joué en Finlande, fait la Ligue américaine avec les Monsters de Cleveland, Blue Jackets. Il est retourné un petit peu en France. Retourné au Blue Jacket, là, il y a eu des enjeux avec le programme d'aide de la Ligue nationale. Il a fait une saison en Suisse.
Okay.
Il est retourné au Blue Jackets. Ensuite de ça, depuis l'an passé, il est avec les Blues de Saint-Louis.
Okay.
C'est quand même un gars qui a un parcours en montagne russe depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Sa meilleure saison, quand même, 30 points en 78 matchs. Là, il y a du talent.
Ben, c'est ça.
C'est juste, si tu vraiment lui que tu veux, rendu là, fais un claim au balotage de n'importe qui. Là.
Ouais, en même temps, écoute, il faut qu'il y ait des joueurs au balotage. Ouais. Ça prend des joueurs intéressants. Puis le Canadien, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ou un bon début de saison, ben, t'es plus loin à parler. Là. À ce moment-là, t'as pas les premières sélections. Fait que si quelqu'un est intéressant, il y a des bonnes chances que ça ne se rende pas nécessairement jusqu'à toi. Je reviens sur ton information d'Eliot Friedman. Moi, je ne remets pas en doute du tout ce que Friedman avance. Et je pense que si Friedman avance ça, il y a réellement eu tractation. Je ne pense pas que c'est l'agent qui a inventé ça pour mettre le nom du Canadien. Moi, je pense plus que c'est Kent Hughes qui fait réellement son devoir et qui essaie plusieurs perches. Et là, peut-être que l'argent en question a coulé l'information que le Canadien a fait sa due diligence puis d'avoir fait des approches auprès du clan Texier. Tout ça est possible. Mais d'après, il y a une grosse marge là, entre Kent Hughes a pris le téléphone et a appelé quelqu'un et Kent Hughes a déposé une offre de contrat sur la table. Je pense juste que le DG du Canadien est actif et il n'est pas assis sur ses deux mains présentement.
Moi, je trouve ça fascinant. Comment, rappelez-vous, là, au camp d'entraînement, on se replonge il y a peut-être un mois et demi. On disait qu'il y avait une lutte à ne plus finir entre plein de gars pour les 12e et 13e postes avec le Canadien. Tu sais, évidemment, t'avais Veleno, t'avais Blais, mais t'avais aussi, bon, Kapanen, finalement, qui a fait l'équipe.
Ouais.
On parlait de Winbeck, on parlait de Florian Jacky, on parlait de Joshua Roy, de cette profondeur incroyable que le Canadien avait. Finalement, c'est plus ça aujourd'hui. Le Jacky et Beck ont même pas l'air d'avoir été proches du rappel. On a rappelé Joshua Roy, même si ça fait mille et une fois qu'on lui donne une dernière chance, ça marche pas. Parce ça montre à quel point la pré-saison, ça peut être trompeur.
Ben, écoute, les messages qu'il véhicule durant la pré-saison, on a eu Patrick Laine qui nous a dit que ça allait être la meilleure année de sa carrière. Un tout nouveau Patrick Laine.
Ouais.
On a eu Joshua Roy qui s'est entraîné comme un chien. Je suis convaincu que c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est une chose d'être en forme, c'est une autre chose que ça se transpose sur la patinoire.
Ça suit pas. T'sais,
Montréal est une ville de hockey.
Ouais.
Quand le hockey commence, quand même le tournoi de golf commence, tout le monde est excité. Fait que le moindre petit morceau de contenu sur lequel on peut miser, nous, les médias, mais aussi les fans à la maison, et moi, je me mets dans les deux catégories, on part en peur avec ça et on fait une grosse affaire. Mais au final, ça vaut ce que ça vaut, là, cette pré-saison-là.
Ouais, si on avait décerné les trophées, disons, au mois d'août, là, Patrick Laine aurait gagné le Maurice Richard, Joshua Roy, le Bill Masterton. Il y a une raison pourquoi la saison, elle doit se jouer. Là,
ouais, exact. Puis on est quand même, on est minutieux, on est attentif aux détails ici à Montréal. Là. On n'est pas une foule comme Atlanta, mettons, dans le temps où il fallait que tu expliques c'était quoi un icing là, durant le match.
Ça. Ouais, ça, c'est complètement différent, ouais. Effectivement. On n'est pas les seuls, par contre, qui ont eu des blessures. Il y en a eu pas mal à travers la Ligue nationale de hockey. Et des blessures en tout genre. Jack Hughes s'est coupé dans un souper d'équipe.
Ouais.
Un accident complètement stupide qui va le tenir à l'écart pour une bonne partie de la saison.
Ouais, c'est 2 mois, je pense.
C'est complètement dément, ouais. Honnêtement. Tu perds ton meilleur joueur. Le joueur que tu as perdu il y a quelques années qui a fait en sorte que tu as été éclipsé des séries. Et là, tu le perds alors que ça va quand même bien du côté des Devils. Mais... honnêtement, je serais... tellement fâché de la situation, là, être un partisan du New Jersey. Là.
Mais il y a une malédiction au New Jersey. D'ailleurs, ça, c'est mon radar de la semaine. Ça a l'air qu'il y a des momies qui ont une malédiction sur les joueurs des Devils. Donc, les Devils, présentement, ont, je pense, c'est comme 6 blessés, là, ouais, dont des joueurs d'impact.
C'est la plus blessée dans la
Ligue. Jack Hughes, Dougie Hamilton, Brett Pesci, c'est tous des gars importants pour les succès de l'équipe. Malgré tout, ils sont capables de gagner des matchs. Mais néanmoins, il y a des articles du New Jersey Post qui sont sortis comme quoi le Prudential Center aurait été bâti sur un cimetière et que, jusqu'à... tout récemment, on aurait retrouvé des sarcophages en acier où se retrouvaient des vraies momies. Ils ont posté des photos de ça. Ouais. Je vous jure, des photos de crânes d'ossements de momies qui seraient au New Jersey et qu'à partir de ce moment-là, c'est un peu la malédiction au New Jersey. C'est pour ça que les joueurs se blessent de manière un peu hasardeuse, si vous voulez.
Mais ça n'a pas de bon sens.
Non, oui, je sais. C'est fou. J'essaie de regarder ça. Incroyable. Ça vaut la peine. C'est très drôle.
Est-ce que Itu Lestarinen a déjà joué pour les Devils New Jersey?
Malheureusement, jamais. Non. Mais lui aussi, ça en est un autre.
Ouais.
On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On sait que ça implique un barbecue.
Et t'es écoute. En train de se faire griller un petit peu de sanglier. Là,
c'est ça, exact.
Ah non, exact. C'est ça. Écoute. Puis d'ailleurs, j'ai un point sur les Panthers. Je ne sais pas, vous parler des Panthers. Ça vient un peu rapper ce que j'ai regardé cette semaine, mais dans le temps, quand les Panthers voulaient... on sont arrivés dans la Ligue, on sorti leur premier uniforme. Ils avaient sorti à la base des gants de joueurs avec des griffes dessus. Puis là, je vais mettre l'image là, dans l'épisode, mais c'était vraiment, vraiment champ gauche. Puis on n'avait pas ça dans le temps où la NHL était un peu plus traditionnaliste, où on pouvait pas trop oser. Déjà que le logo de la Panthère, c'était quelque chose de gros. Depuis récemment, on a commencé à laisser les joueurs... Tu sais, au baseball majeur, mettons, tu le voyais un peu plus, des joueurs qui pouvaient laisser aller leur couleur avec leurs gants, avec leur spike. Je pense notamment à Mike Clevinger, un extenseur des Guardians, des Padres, qui avait une petite fleur de tournesol sur son gant. Puis... par la suite, les joueurs ont commencé tranquillement. Austin Matthews avait des bâtons un peu pas individuels, mais personnalisés. David Pastrnak aussi. Vous, est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que la Ligue accepte un peu plus de créativité à ce niveau-là?
Mais on a déjà vu ça. Tu sais, je veux dire, Alex Ovechkin avait la grosse vitre teintée.
Mais s'est fait barrer la route pas mal vite.
Ouais, parce que Martin Brodeur, c'est plein, là.
Ouais.
De mémoire, c'est Brodeur.
Ouais, c'est Brodeur, c'est exactement Brodeur. Ouais.
Parce qu'il disait qu'il pouvait pas voir ses yeux.
Ouais.
C'est vrai. Il y a seulement un certain niveau de teinture, d'opacité.
Ovechkin, il avait l'air de
Robocop. Il était cool quand il était marqué dans la Ligue. Avec les patins blancs, puis le tape jaune.
Moi, j'ai pas de trouble avec ça tant que tu viens pas altérer le logo et l'uniforme.
Ouais.
Je veux pas quelqu'un qui. Mettons, le baseball est un bon exemple. Les souliers ne font comme pas partie de l'uniforme. Tu vois, des souliers roses, verts, bleus, je m'en fous. Tu sais, c'est correct, t'as le droit de...
Puis tant que c'est dans le respect aussi, puis dans l'esprit sportif.
Exact. Là, exact. Mettons, Vladimir Guerrero Jr. qui avait un protège-coude rose et turquoise dans l'uniforme des Blue Jays.
Rien à cirer. Non, okay. Pas.
Je me rappelle, par exemple, il y a quelques années, Caleb Williams, le carrière, quand il jouait dans la NCAA à USC, il s'était peinturé les ongles. Fuck Utah. Parce qu'il jouait contre Utah cette semaine-là, peut-être pas une bonne idée.
Non, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Faut que ça reste de bon goût.
C'est ça.
Je pense. Mais moi, j'irais pas de problème. T'sais. Puis clairement, la Ligue nationale de hockey veut ça plus qu'on laisse exprimer les personnalités parce qu'on essaie de faire grandir le sport un petit peu aux États-Unis. Puis clairement, tu le vois au basket, tu le vois au football, tu le vois au baseball. Mais dans la Ligue nationale de hockey, tu voyais des cravates puis tu voyais des petits messieurs propres. Fait que je pense que c'est une volonté un peu là, de. Vouloir faire changer ça.
Ou même un peu dans la même lignée, mais de façon différente là, dans la dernière semaine. Les frères Kachuk qui ont sorti leur propre podcast.
Exact.
Tu sais, ça, c'est une nouvelle tendance dans le sport. On l'a vu beaucoup au basket, au football. Des joueurs qui utilisent leur propre voix, leur propre plateforme, puis se partent un podcast. Là, les Kachuk l'ont fait. Pour moi, c'est une super bonne nouvelle pour la Ligue nationale de hockey, là, de permettre à des joueurs de t'exprimer comme ça, montrer leur personnalité. Ça peut juste être bon pour la Ligue. Je ne dis pas que leur podcast va rivaliser avec Radar, mais tu sais...
Non, quand même pas. On a de l'expérience. En même temps, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on leur aurait permis ça dans d'autres marchés? On parle quand même d'Ottawa et la Floride.
Ouais, je pense pas qu'à Montréal, ça aurait passé.
T'sais, c'est ça. Non. Je sais pas si Matthews peut se partir un podcast à Toronto ou Suzuki peut se partir un podcast à Montréal.
Imaginez quand ce serait micro-analysé à la seconde. On va dire un podcast d'Austin Matthews, là. Tu sais, les gens, ils réagiraient. Ah, mais il a pris une pause après avoir dit ce mot-là, blablabla.
Ben, oui. C'est sûr, mais ça serait la même affaire à Montréal.
Et aussi, en faisant ça, tu t'exposes énormément à la critique. Même si c'est un peu stupide. Là. C'est pas vrai qu'un podcast d'une heure, ça t'empêche de t'entraîner, de faire tout le reste dans ta semaine, parce que les joueurs d'hockey, ils ont quand même du temps libre. Mais tu t'exposes à la critique quand même en faisant ça, là, en te mettant de l'avant comme ça. Tu sais, si jamais les Kachuk, disons Brady, il y a une mauvaise séquence, là. Ah, c'est à cause de son podcast qui est pourri, concentre-toi donc sur le hockey. Ça fait partie de la réalité. Il faut que tu sois conscient de ça si tu le fais.
Ou, mettons, tu sais, ils se font planter, puis là, tu te débats. T'es quand même heureux le lendemain dans ton podcast. Là, comment ça qu'il n'est pas à terre? Là, comment ça qu'il n'est pas encore débiné?
Je me rappelle l'an passé, Paul George, qui a déjà été une vedette dans la NBA, là, plus maintenant aujourd'hui, il est rendu avec les 76ers, puis il est tout le temps blessé, puis tout. Lui, il a son propre podcast. Et il y avait un moment dans la saison de l'an passé où Paul George avait publié plus de clips de son podcast qu'il avait inscrit de points avec les 76ers. Les fans n'étaient pas contents.
Ah, mais tu sais,
il était toujours blessé. Puis les Sixers ont connu une saison atroce. Fait que ça, je peux comprendre la frustration des partisans d'être comme... T'as-tu vraiment besoin de ça en ce moment?
Mais c'est le fun. En plus, ils ont ciblé les deux meilleures personnalités du hockey pour le faire en ce moment. Mais en même temps, j'aimerais ça voir un podcast, mettons, avec Cole Caulfield, Arber Jacquet puis Jacob Debèche, là.
Ouais, ce serait quoi le vôtre, là? On va dire votre... pas votre podcast de rêve, parce que c'est Radar, votre podcast de rêve, mais ça, là, ce duo-là ou ce trio-là pour le hockey, pour le Canadien, peu importe, ce serait mon préféré. Avec, on peut inclure des anciens joueurs aussi.
C'est vraiment une bonne question.
Ouais, c'est bon, ça.
Moi, tu vois, rapidement, à brûle pour point, un joueur que j'aurais aimé ça entendre en podcast, c'est Marc-André Fleury. Je trouve qu'il y a une belle personnalité, puis je pense que ça aurait été cool.
Roberto Luongo.
Roberto Luongo. Tu vois, Fleury et Luongo.
Ça
aurait été excellent.
Dale Weiss avait son podcast. C'est vrai. Puis il a vraiment pris le fait qu'il a été populaire à Montréal. Puis ça n'a pas fait long feu. Je vois, ça a fait comme 2 ans.
Je pense que c'est Max Allen qui me racontait ça. Que ça a l'air que Tony D'Angelo, quand il jouait pour les Rangers, il avait son propre podcast. Puis l'équipe aimait pas ça.
C'était ça avec son père. Il me semble que ça me dit quelque chose.
Avec son père.
Son père était
épouvantable. Il y avait souvent plein de théories du complot. Genre
c'est un drôle
d'affaires
de
même.
Un drôle de moineau quand même. Tout ça part de Brady Kachuk. Je trouve ça intéressant parce que c'est d'ailleurs sur ce podcast-là qu'il a annoncé qu'il va être de retour la semaine prochaine. Ça va être tout un coup de main pour les Sénateurs, hein, parce que les Sens, sans leur... Peux-tu dire leur meilleur joueur?
Non, moi, je dirais Sanderson.
Okay. Plus que Shtuzla?
Ouais, moi, je dirais Shtuzla, moi aussi.
Sanderson, c'est tout un défenseur. Là. Lui, il va être probablement dans les 6 défenseurs américains aux Olympiques.
T'es sûr?
Ouais, mais Shtuzla va être le plus allemand.
Ouais, mais c'est l'Allemagne.
Okay. Mais, anyway, deux excellents joueurs. Mais mettons que. J'espérais t'avoir. Ouais. Mettons qu'il n'est peut-être pas le meilleur joueur des Sens, Brady Kachuk.
Leur capitaine.
Mais l'âme de l'équipe, le capitaine, sent quand même un morceau très important. Ils ont réussi quand même à se tenir la tête en dehors de l'eau. Et là, il va revenir. Attention aux Sénateurs.
Ben oui, encore une fois. Puis la rivalité avec les Canadiens va être revampée. Puis ça va donner. Ça va être l'élément déclencheur de probablement un bon soutien, une bonne passe là, pour les Sens qui s'en vient. C'est souvent
mais au-delà des Canadiens, là, juste les Sens pour eux,
ben oui,
là,
c'est ça.
Écoute, c'est une rampe de lancement. Là,
ben ouais, exactement, c'est une étincelle. Ça va faire du bien, assurément. Puis, c'est un gars qui est responsable aussi, qui amène beaucoup de choses. Ouais.
Moi, ce que je trouve fascinant des Sénateurs, en plus, c'est qu'ils réussissent à être bons sans du bon hockey de leur gardien. Leur gardien, il les aide vraiment pas.
Ouais.
Linus Ullmark, qui est supposé être un des bons gardiens de la Ligue, fait pas le travail. Puis c'est un gars qui est un peu nonchalant. Cette équipe-là des Sénateurs, en plus, qui a tendance à super mal commencer les saisons, Puis là, ils se réveillent plus tard dans l'année, puis ils finissent la saison en feu.
Ils sortent trop peu trop tard, puis ils arrivent à court.
Ouais, exactement. Puis là, l'an passé, c'était un petit peu mieux, fait qu'ils ont réussi à faire les séries. S'ils sont capables de vraiment... Tu sais, là, ils sont vraiment dans le peloton, comme ouais. à peu près toute l'Est, là, pour faire les séries. Mais là, si avec le retour de Kachuk, ils peuvent prendre leur envol, moi, je pense que c'est une équipe qui... Elle va assurément se battre pour finir dans le top 3 de l'Atlantique d'ici la fin de l'année. Là.
Oh ouais.
Ils ont tous les
ils ont le talent.
Ben, en fait, il n'y a personne de sortie sauf Buffalo de la course. Ouais.
Exact. C'est fou, ça. Puis, tout le monde joue à peu près au-dessus de 500 sauf Buffalo.
C'est sûr.
Parce qu'il y a tellement de matchs qui finissent en prolongation ou en tir de barrage que tu finis tout le temps par récolter un point ici, un autre point là, deux points.
Ça me tape sur les nerfs, les prolongations.
Il est peut-être temps qu'on enlève ce point-là de loser. Là.
Ou qu'on change le système.
On change la formule, ouais.
3-2-1.
3-2-1. Mm-hmm. 3-2-1, là, ça règle tous les problèmes. Parce que 3-2-1, il n'y a pas un point qui, pouf, apparaît comme par magie. Ouais. Tu sais, là, on est trois équipes qui se battent pour une place en série. Hugo, puis toi, vous vous affrontez, vous allez en prolongation. Moi, je me fais avoir des deux bords. Ouais. C'est ridicule. Mm-hmm. Tandis que 3 points pour une victoire en temps réglementaire, 2 points pour une victoire en prolongation ou en tir de barrage, 1 point pour la défaite en prolongation, ben, y a juste 3 points. Qui est distribué différemment, comme on le voit au championnat du monde junior.
Puis il n'y a rien de pire qu'on le voit des fois avec le Canadien, par exemple. Là, le match est serré, c'est l'égalité, il reste une ou deux minutes à faire au match. Et là, les équipes mettent leurs joueurs défensifs. Tu vas avoir un Jake Evans pour finir la rencontre, pour être sûr d'aller en prolongation. Exactement.
Exact.
Tu sais, faut qu'il y ait un mini-enjeu au moins pour forcer les deux équipes à être plus agressives en fin de match. Pour que tu aies de quoi à gagner ou à perdre, si ça se rend en prolongation ou pas. Là. Moi, j'aimerais ça pour... Parce que c'est même pas du bon hockey, en plus, en prolongation. Du 3 contre 3, c'est pas du vrai hockey. Puis ben, les tirs de barrage, c'est encore c'est pire.
C'est lent. C'est
pile ou face, là. Ça n'a aucun rapport avec le vrai hockey.
Non, je suis d'accord. Puis je trouve que ça devrait être un format éliminatoire tout le temps. Dans le sens, comme les séries, là, je parle.
En fait, gagner, c'est gagné. Perdu, c'est perdu.
Ouais.
Fait que tu perds en 16e ronde de tir de barrage, 0 points. C'est ça que tu proposes?
Ouais, ben en fait, non, mais je veux dire, la formule de la prolongation. Dans le sens, c'est comme pas
golden
du 3
goal.
3. Ouais, un golden goal.
Ouais, mais là,
mais tu peux pas faire ça en saison régulière, Hugo, man. Tu pourrais faire 20 minutes de prolongation.
Ça, c'est vrai. Ou c'est quoi, tu proposes une nulle, genre, à la fin de la prolongation?
Non,
c'est ça, là.
Sérieux, les nuls.
Gilles
Ballard,
là, on sort de ce corps.
Ouais, non,
laisse pas les nuls.
Mais tu laisses les tirs de barrage, c'est bon?
Oui, mais tu mets des incitatifs avec les points pour forcer les équipes à peut-être finir les matchs plus rapidement.
Forcer un peu plus, ouais.
Forcer bien que, hey, on va essayer de finir ça à la régulière à la place de nous, on se contente de la prolongation. Ou même à la fin de la prolongation, on va jouer ça safe, essayer d'aller en tir de barrage. Tu sais, essaie de finir le match le plus rapidement possible parce que quand tu forces les équipes à être plus agressives,
ouais, signifie l'enjeu,
il peut aussi avoir plus d'erreurs. Le contre-attaque, c'est l'autre équipe qui finit par marquer.
Patient.
À la place de vraiment jouer conservateur, de OK, on attend de voir l'autre faire quoi.
Sauf que c'est pas vrai qu'il y a rien à gagner que de gagner en temps réglementaire. C'est minime, mais ça reste que c'est le premier bris d'égalité.
Ouais.
Les victoires en temps réglementaire. Je vous donne la statistique. Depuis le début de l'année, les équipes qui ont gagné 4 ou 5 victoire en temps réglementaire. Il n'y a personne à 3 et moins. Il y a plein d'autres équipes à 6 et plus. 4 ou 5. On a les Oilers d'Edmonton qui sont 23e à 4. Les Flyers de Philadelphie qui sont 24e à 4. Les Sharks de San Jose qui sont 26e à 4. Les Predators de Nashville à 4. Les Canucks 28e. Les Sabres 29e. Et les Flames 32e à 5. Et on trouve aussi le Canadien de Montréal à seulement 5 victoires à la réglementaire cette année. Ça veut dire que si ça reste très serré dans le classement et qu'à la fin, exactement comme l'année dernière avec les Blue Jackets, le Canadien n'aura pas le bris d'égalité sur personne. C'est important de gagner des matchs, oui, c'est important d'aller chercher 2 points, mais c'est important de le faire en 60 minutes.
Est-ce que pour vous, une victoire, avoir autant de victoires en prolongation, c'est entre guillemets être chanceux?
Non, mais ça maquille la réalité.
C'est ça.
Oui, je suis d'accord.
De l'affiche, le début de saison, en tout cas, c'était un peu un mirage. C'était plus beau que ce que c'était réel.
Ben, c'est sûr que Caulfield, il en met tout le temps dedans en prolongation. C'est un but quand même. Mais c'est un joueur qui excelle avec temps et espace.
Ouais, exact.
Mais tout le monde a les mêmes conditions. Là, à vous de faire la même chose.
C'est juste que ça, tu peux pas avoir de corrélation entre, disons, être une bonne équipe à 3 contre 3 versus être une bonne équipe en série. Là.
C'est complètement
la marge
différent.
Est complètement différente.
C'est complètement différent. Puis tu vas pas payer des billets pour aller voir ton équipe à domicile pour les voir jouer en prolongation.
Mais non, aussi. C'est pas du...
Mais par contre, ça
mais c'est électrisant.
C'est le fun à voir. C'est le fun à voir.
N'importe qui est sur place, qui voit une prolongation, est heureux. Là.
Ben oui, parce qu'il va voir Caulfield, Hudson, Suzuki, Demidov, des gars comme ça de talent avec autant d'espace en prolongation, c'est du bonbon. C'est juste que c'est pas une façon de gagner régulièrement si t'es une équipe de hockey. Là. Mm-hmm.
Mais par contre, j'apporterais certaines modifications au règlement.
Ouais.
Je suis pas dans l'école là, un shot clock là, comme au basket, là, que ça prend absolument 30 secondes pour t'es lancé. Non. Mais je ferais en sorte qu'une fois que tu as passé la ligne rouge, ouais. Elle peut pas revenir en arrière. Ouais. Une fois que tu as passé la ligne bleue, là, on voudrait voir, là, mais.
Peut-être la ligne rouge centrale.
Mais il n'y a pas de règle en KHL pour ça.
Il y a des règles.
C'est dans la MHL, je pense qu'on a mis cette règle-là pour tester.
Il y a des règles aussi dans la ligue nord-américaine, je pense. Tu peux même tomber 2-2 et 1-1. Là.
Oh boy.
Ouais. C'est un peu ridicule. Mais ça reste que. Je trouve que ça fait pas de sens pour moi de. On le voit beaucoup, là. On prend possession de la rondelle et là, on se permet 3-4 changements dans le fly pendant que l'adversaire, eux, ne peuvent pas changer. On espère les avoir parce qu'ils sont fatigués. C'est un peu de l'antisport, là.
C'est comme ça devient un jeu de possession un petit peu. Puis moi, il n'y a rien qui me frustre plus là, quand je regarde un match de hockey en prolongation que de voir une équipe en train d'attaquer, sont profondément en zone adverse. Puis là, finalement, ils décident non seulement de reculer, mais de retourner. T'sais, ils traversent la ligne bleue de l'autre bord pour regroup.
Pour revenir avec vitesse.
Exact. C'est pas du bon spectacle.
Non, non.
Tu forces le jeu. Comme ça, ben, il va avoir plus d'attaques. Puis si jamais ça fonctionne pas, il va avoir une contre-attaque rapide. C'est ça que tu veux au final. Tu veux un spectacle. C'est pas beau à voir.
Mais la formule 3-2-1 va aider à ça. Si on se fie à ça, parce que justement, là, tu vas inciter des équipes à attaquer plus, à avoir cette différence de points-là. Là,
exact. Puis surtout dans ce que tu viens de dire pour ça, c'est que on a tellement peur de perdre la possession de la rondelle parce qu'on peut tellement garder la rondelle que c'est pour ça qu'on fait des retraites dans notre zone.
Ouais.
Mais si on peut plus sortir de la ligne bleue sans qu'il y ait un arrêt de jeu, ben on n'aurait pas aussi peur de perdre la rondelle parce que si on la perd, ben l'adversaire aussi va être propice à la perdre à son
exact.
Tour. Alors que là, du moment que tu perds la rondelle, tu sais que tu ne retoucheras pas pour 2 minutes. Fait que c'est comme un peu spécial. Mais bon, ce sera pour un autre débat. Il y a plusieurs autres blessures qu'on a vues, les gars, dans la Ligue nationale de hockey. Charlie McAvoy, rondelle au visage contre le Canadien, un lancé de Dobson, opéré à la mâchoire, il va manquer beaucoup de temps. Ça va faire mal aux Bruins. Même, je pense, ça va faire mal aux Américains pour les Jeux Olympiques. On a vu Alexander Romanov être planté de dos par Mikko Rantanen.
Puis Patrick Roy, il a vraiment aimé ça.
Hey.
Honnêtement, là, Patrick Roy, je sais qu'il y a ses détracteurs, mais Patrick Roy est bon pour le sport. Il est bon pour la Ligue nationale. C'est tellement un personnage. Premièrement, c'est une légende, là, mais c'est tellement un gars qui est intense qu'à chaque année, là, ça arrive une couple d'incidents de même. T'as besoin de Patrick Roy dans la Ligue. Il est bon pour le show.
Bon pour la foule, bon pour les joueurs, bon pour les médias, bon pour tout ça, t'as raison. Bon pour ses joueurs aussi.
Hey, ça doit être le fun.
Tu sais, t'es là, puis là, tu vois ton coach investi de la sorte. Tu dis, OK, nous, à tous les jours, on va à la guerre, puis ça fait mal d'un coin, puis tu sais, notre corps est affecté, puis c'est pas évident. Notre coach est à la guerre avec nous autres aussi.
Ah oui.
Tu sais, on est loin des époques là, de Pat Quinn. Là, c'était un excellent coach, mais tu sais, c'était plus Jacques Martin ou un peu plus. On attend. Là. Puis là, tu sais, on a établi des stratégies, mais il ne faut pas démontrer trop d'émotions. Là. C'est important. Il faut montrer qu'on est en contrôle. Là.
Ouais, c'est ça.
Come on. Là.
C'était pas à son premier match, peut-être avec l'Avalanche, que.
Bruce Boudreau.
Son premier match.
Son premier match. Ça, son premier.
La bande était rendue.
Ça avait
la bande.
Ouais. Et Boudreau, il avait dit c'est junior stuff.
Ouais.
C'est junior.
Ça,
c'était vraiment bon.
Il s'est calmé depuis ça. Là,
Jack Allen, cette année-là.
Ouais. C'est vrai? Ah, il avait connu toute une saison.
L'Avalanche était en série pour la première fois, je sais pas trop combien d'années, puis c'était vraiment pas bon. Là.
Ouais, il s'était fait surprendre par contre par le Wild, si ma mémoire est bonne.
Ouais.
Le Wild, ils avaient battu.
Puis là, il a fait une autre saison après, ça s'est pas bien passé, puis il a quitté l'Avalanche l'été suivant.
Oui, parce que.
C'est pas, il voulait pas avoir.
Il voulait plus de pouvoir, je pense.
Dans qu'il voulait aller chercher Radulov, si ma mémoire est bonne.
Ça se peut.
Puis l'Avalanche voulait pas aller le chercher. Puis ça avait comme effrité la relation. Puis tu vois, un peu dans le même genre, Drouin est rendu avec Patrick Roy.
Ouais.
Et il a une super bonne saison.
Ouais, il a une excellente saison.
C'est le meilleur pointeur québécois depuis les 4 nations, Jonathan Drouin.
Pour vrai?
Ouais. Adios. Devant Huberdeau, devant Lafrenière, devant Dubois, je sais qu'il est blessé, mais je pense que c'est pour ça que Drouin est premier.
C'est quand même
bon. Depuis les 4 nations, c'est le gars qui le Québécois qui a inscrit le plus de points. C'est quand même impressionnant pour de vrai de voir... J'entends Drouin renaître, mais ça te montre que quand tu es dans le bon environnement, tout est possible.
Ouais, puis ça montre, tu sais, ça montre aussi que le gars, il était à sa place, puis c'était vraiment juste des distractions, parce que là, tu le sens concentré, tu le sens établi, puis tu le vois produire. Tu sais, sa saison de 50 points, là, avant qu'il vienne à Montréal, là, à Tampa Bay, là, tout semblait rouler pour lui. Oui, il avait fait de la baboune parce qu'il jouait pas sur le premier trio. Mm-hmm. Puis là, une fois qu'on l'a mis là, il a été à sa place et il a eu une production tout de suite. Tellement qu'on a donné Sergachev pour l'avoir.
Incroyable.
Sa valeur a pris vraiment, vraiment, a grandi de manière exponentielle. Donc, le voir produire comme ça, c'est des belles surprises dans une équipe des Islanders qui est vraiment... qui semait le doute, on va se le dire, parce que, justement, on n'a pas ce... Pas, je dirais pas cette superstar-là, mais on a un alignement très, très similaire, là, très, très homogène. Là, on va le mettre comme ça.
Il y a quelqu'un hier qui a tweeté, puis là, je plate parce que j'arrive pas à le retrouver, là. Il a tweeté les stats de Drouin à Montréal versus les stats de Drouin.
Ah non, on est obligé d'aller là.
Non, mais si tu le dis, c'était impressionnant, là. Tu sais, j'entends Drouin a vraiment des très bons chiffres. Bon, je vais les faire manuellement sur HockeyDB, là.
Mais non, mais c'est ça. Ça, c'est... Ça aussi, ça prouve à quel point c'est ça, le set est important, puis tout doit être mis dans sa tête.
L'année passée, c'est 37 points en 43 matchs.
Avec l'Avalanche.
Et cette année, c'est 14 points en 19 matchs.
C'est vraiment bon.
C'est vraiment bon,
c'est
là.
C'est vraiment bon.
Mais good for him, pour
vrai. Ouais, pour vrai. Parce que c'était pas... je pense qu'il a été victime un peu de l'environnement de Montréal, parce que ça n'a jamais vraiment été un gars qui était... C'était pas un mauvais gars, puis je suis sûr que c'était pas un mauvais gars dans la chambre non plus, Jonathan Drouin, mais tu voyais qu'il avait... qu'il se battait avec quelque chose à l'interne.
Tu veux dire dans sa tête?
Oui.
Ouais, clairement. Je suis pas quelqu'un qui l'a eu nécessairement facile
dans
le moment.
Bon,
on le sait, toute la dépression, pour connaître l'histoire. Est-ce que, par contre, on est en train d'avoir un peu le même traitement à Montréal avec Samuel Montembeau? Parce que c'est un autre Québécois qui reçoit sa part de critiques présentement.
Sauf
là.
Que la différence, je pense, c'est les attentes. J'entends Drouin, tu as échangé Sergachev pour lui, puis il était vendu comme Marc Bergevin comme le futur premier centre de l'équipe.
Ouais.
Montembeau, as-tu déjà vraiment eu des attentes si élevées que ça envers lui?
Ben maintenant, oui. Avec la saison de 62.
Même à ça.
Personne n'a jamais dit Samuel Montembeau, c'est... le futur du Canadien devant le filet.
Non.
Il a toujours été vu comme un genre de bridge. Entendant, alors que Drouin, c'était supposé être la plus grande chose depuis Turgeon puis Danfousse.
Drouin Pacioretty, c'était censé révolutionner le hockey.
Ça, c'est vrai.
C'est comme la vedette québécoise qu'on attend depuis tant d'années.
Ben oui,
c'est vrai, là.
Tu donnes ton choix de top 10 contre ce gars-là.
OK, je l'ai. Alexandre Pratt qui est sorti ce meilleur marqueur québécois depuis le 1er janvier 2025. Fait qu'avant même les 4 nations. Drouin, 45 points. Huberdeau, 42 points. Dubois, 38. Chabot, 38. Lafrenière, 36.
Quelle déception, Alexis Lafrenière.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un des
pires premiers choix? Oui.
C'est pas un bust, là. C'est pas Neil Yakupov, non. Mais tu fais un redraft, là. Je sais même pas s'il sort top 10.
Ouais, c'est
difficile à dire. En 2020?
Ouais.
T'as peur.
Difficile à dire.
On peut le faire ensemble. Ça va être fun. Notre premier redraft.
Ah ouais, là. Amusons-nous. Lafrenière, premier en 2020. Cette année-là, je vous sors le top 10. Quinton Byfield, Tim Stützle, Lucas Raymond, Jake Sanderson, Jimmy Drysdale, Alexander Holtz, Jack Quinn, Marco Rossi et Cole Perfetti. Ça, c'est le top 10. Mm.
C'est pas un grand top 10, c'est qu'il y a eu des gars repêchés plus tard.
Mais là-dessus, on s'entend, il est clairement en arrière de Stützle, Raymond,
Sanderson. Byfield, il y a une éclosion. Là.
Ouais, bon,
Marco Rossi, il y a quasiment une discussion à avoir.
Mais ouais. Alexander Holtz, non, clairement pas.
Non.
Même Jack Quinn, non. Cole Perfetti aussi, très bon. Je l'aime bien, Perfetti.
Il est bon.
Askarov, on verra.
Askarov va très bien. Là.
Plus loin, t'as Anton Lundell. On s'entend.
Seth Jarvis, équipe Canada.
Seth Jarvis. Dylan Holloway, autant ça s'est bien passé l'année passée. Tranquille, Kellen Goulet est tout le temps blessé, malheureusement, c'est dommage, parce que sinon, Kellen Goulet en santé, je le prends
mille fois
avant la fin.
Puis Kellen Goulet, il a été vanté quand il jouait junior, là, il est comme un des meilleurs, puis c'était un des meilleurs défenseurs.
Regarde, en deuxième ronde, t'as JJ Peterka, t'as Brock Faber. Non, c'est
en première ronde, t'as encore du monde, là, t'as passé vite, là, mais Connor Zary, très bon en Calgary. Jake Neighbors du côté de Saint-Louis, je pense qu'il y a un beau potentiel là. Pas sûr que je le prendrais nécessairement avant Lafrenière, mais bon.
Dawson Mercer
est là.
Excellent.
Il sort pas top 10 si tu fais un redraft.
JJ Peterka aussi est là. C'est lui que t'as nommé?
Ouais.
Excuse-moi. Okay,
avec Brock Faber aussi en deuxième ronde. Non, c'est...
Emile Heinemann a une éclosion extraordinaire.
Emile Heinemann joue très bien. Joue très bien. Vouloir jouer pour un entraîneur, c'est un pouvoir magique, ça. Puis, honnêtement...
Est-ce que t'as insinué qu'il voulait pas
jouer pour Saint-Louis? Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que je reviens sur le point que tu disais que Patrick Roy se bat pour ses joueurs, tu sais.
Ah, ouais,
ouais, ouais. Non, non, non. Au contraire.
Alors, très décevant avec Lafrenière, puis c'est même pas proche, là, mais il y a pas un Québécois qui fera équipe Canada, puis... Il n'y a personne même qui est le plus proche de l'être, là, entre guillemets, là, disons, c'est Mike Madison, puis je pense même pas qu'il est dans la discussion.
C'est fou, hein? Moi aussi, je pense que c'est Mike Madison, le Québécois le plus proche.
Ben oui, et il n'y en a pas un autre qui s'en vient? Il n'y a pas un espoir québécois repêché dans les dernières années? T'sais, tu te dis peut-être à long terme Caleb Desnoyers, mais je pense qu'il
Alexis Joseph,
on est très loin de ça. Alexis Joseph, même pas encore repêché.
Ouais.
C'est quand même triste à quel point l'étoile du Québec a pâli à l'échelle canadienne, là, sincèrement. Ouais.
D'ailleurs, je lisais un texte là-dessus. Ils veulent comme faire une refonte de l'élite au Québec.
Ouais.
Ils veulent un peu épurer ça parce que c'est peut-être le talent est peut-être un petit peu trop dilué.
Ouais.
Forcé justement.
Ou masqué.
On dit tout le temps qu'on s'améliore quand tu joues contre les meilleurs.
Ouais.
Mais si tu t'affrontes pas les meilleurs, ben là, tu peux dominer un certain niveau, faire un peu de surplace et là, finalement, t'es pas capable de.
Il y a une refonte à avoir pour de vrai. Là.
J'ai des amis qui sont dans les réseaux Midget 3A puis Midget Espoir. Là, puis le gros enjeu en ce moment, c'est il y a des bons talents qui sont masqués par de l'argent parce que justement, il y a des parents ou des organisations qui sont prêtes à investir dans le programme de hockey,
ben oui.
Qui sont prêtes à mettre de l'argent pour. Ça fait en sorte que oui, au final, ton réseau il est bon, parmi les meilleurs, mettons, au Québec, mais c'est pas les meilleurs joueurs qui vont se retrouver là. C'est ça qui est dommage.
Puis lâchez-moi l'argument là, que ah, mais la LHJMQ gagne tout le temps la Coupe Memorial.
Ça veut rien dire.
Ouais, mais c'est parce que la LHJMQ se bat pas nécessairement avec les mêmes règles
exact.
Que les autres. C'est dans la OHL, tu peux pas transiger de choix de premier tour. C'est à coup de choix de 2 puis de choix de 3 tout le temps. C'est pour ça qu'il y a tout le temps un énorme choix là, des transactions là, qui part.
60.
Ouais. Et dans la LHJMQ, la transaction élastique est très, très fréquente. Là. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que, OK, moi, je suis présentement dans la course. Bon, ben envoie-moi tel joueur, mais je te donne pas nécessairement tout de suite le retour parce que ça va m'affaiblir puis je veux garder la meilleure année.
Ouais.
Je vais te l'envoyer durant la saison morte à l'été.
Exact.
Fait, c'est une transaction qu'on voit pas nécessairement dans les autres ligues. Fait que, oui, la LHJMQ se déroule très bien, c'est parfait, mais anyway, des gros 20 ans, c'est pas ça nécessairement qui fait en sorte que tu es en santé pour la Ligue nationale de hockey.
C'est ça.
Et t'as. Tu sais, regarde, je suis justement dans le fameux texte d'Alexandre Pratt qui en parle. Parmi tous les joueurs nés après l'an 2000 et formés ici, seul Alexis Lafrenière est dans le top 10 de son équipe de la Ligue nationale pour le temps de jeu.
Mm-hmm.
Aucun d'entre eux ne faisait partie vendredi des 200 meilleurs marqueurs de la LNH. Aucun pressenti pour participer aux prochains Jeux olympiques. Là. Il y a vraiment un gros problème de développement hockey au Québec.
Ouais.
C'est dommage, là, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la crème de la crème. Là. C'était les meilleurs au Québec. Puis là, tu as l'enjeu aussi, tu as plein aussi qui partent aux États-Unis, jouent au secondaire, jouent au midget, des affaires comme ça.
C'est l'importance des ligues juniors. Tu sais, je pense que...
Mais le développement, il se fait même avant le junior, je dirais.
Oui.
Ah ben oui.
Le plus important, c'est avant... La LHJMQ, t'es pas que t'es un produit fini quand t'arrives dans la LHJMQ, mais t'as beaucoup moins de choses. Ta courbe de développement est déjà assez...
Loin
d'être terminée, mais elle est beaucoup plus avancée que...
T'es déjà dans l'entonnoir, t'as déjà descendu pas mal.
Mm-hmm. Ouais. Le plus important, ça se fait avec les atomes, puis oui, Bantam, là, dans tes années formatrices.
Mais ça prend des bénévoles pour ça, ça prend de la glace pour ça.
Il y a des gros enjeux liés à ça.
Puis c'est cher, là.
Tu
sais, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, il y a des gens, honnêtement, qui nous écoutent, là. Écoute, je sais que c'est fort comme terme, là, puis Greg l'a utilisé, mais ce sont des héros, là.
C'est vrai,
c'est sacrifier des week-ends, c'est de mettre des gros sous. T'sais, ça demande beaucoup de temps, ils sont bénévoles, ça demande beaucoup d'implication.
Tu fais tellement bien de dire, pour de vrai, moi... Je pensais à ça dernièrement parce qu'il y avait justement un de mes anciens coachs de quand j'étais jeune qui m'a écrit. Puis sincèrement, je pense pas que personnellement, puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, même chose pour toi aussi, Hugo. Puis toi, tu coaches en plus aujourd'hui, mais on serait pas où on est aujourd'hui sans ces gens-là.
Absolument.
T'as raison.
Qui ont donné des heures gratuites là, à nous coacher. Moi, ça a été au hockey, au football, au baseball, chacun dans ses propres sports. Mais sans ces bénévoles-là, souvent c'est des parents, tu sais, qui le font par passion, le sport mineur. Est inexistant. Là. Il n'existe pas. Fait que, honnêtement, ces gens-là, ce sont des héros. Honnêtement, merci à eux.
Mais des fois aussi, puis là, je vais finir là-dessus, puis pour le vivre des fois à l'éternel, mais genre, il y a parfois, les gens qui sont responsables de ces programmes-là, c'est pas des bonnes personnes à être tête de ces programmes.
Des crosseurs.
Il y a, beaucoup, beaucoup d'acquis pris au sein de ces bénévoles-là, les gens qui donnent du temps pour former ces joueurs-là, tout sport confondu, et ils pensent que le résultat va être là au final. Mais ce temps-là, il est précieux. Puis si t'es pas capable de le donner parce qu'il manque de monde ou parce qu'il manque d'attention, oublie ça, c'est fini.
Ah ouais, c'est clair. Puis en plus, mettons, je vais parler pour moi, mais à baseball mineur, j'ai commencé à jouer, j'avais 4 ans. Et j'avais le même âge qu'un garçon, Maxime. Puis c'est son père qui nous coachait. Mais son père m'a coaché pendant 15 ans.
Il y a eu un immense impact sur ta vie.
Mais c'est sûr.
Parce que surtout à cet âge-là, là, ton coach de sport, tu le respectes pas mal plus que ton prof de français de secondaire 1. Là. C'est du monde qui... Oui, il t'enseigne du sport, mais c'est pas juste du sport qui t'enseigne. C'est des valeurs,
la discipline,
le respect, le travail d'équipe.
La persévérance.
La persévérance, ce sont des valeurs, des caractéristiques fondamentales pour ta vie. C'est tellement riche de faire ça, honnêtement. Fait que non, vous êtes vraiment des héros, c'est vrai.
Ouais, non, mais c'est, en tout cas, si ça vous s'applique à vous, ben, chapeau à vous. Les gars, au cours de la semaine, on a eu dans la même journée, la même soirée, un tour de chapeau de Connor Bedard et un tour de chapeau de Macklin Celebrity.
Oui, monsieur.
La Ligue nationale de hockey est tellement jeune. Moi, immédiatement, puis je le sais que c'était pas un contre l'autre, là, mais ça m'a rappelé le match en série que Crosby et Ovechkin ont marqué un tour de chapeau un contre l'autre. Ça, c'est un autre niveau, là, on s'entend. Mais quand même, tu le vois, là, que on est vraiment en train d'assister à un spectacle de kids, là. Ah, c'est vraiment. Les jeunes qui prennent le contrôle de la ligue, puis je trouve ça que...
Ouais, c'est vraiment cool de les voir aller, puis ça prouve aussi à quel point comme le stéréotype, pas le stéréotype, mais la structure du joueur de hockey a vraiment évolué. Là. Tu sais, comme ces gars-là sont tellement rapides, sont tellement intelligents, leur exécution est parfaite. Moi, là, Connor Bedard, tu sais, on parle souvent des meilleurs lancers de la ligue. Là, il doit être là-dedans. Là. Je veux dire,
Tu pourrais peut-être même faire l'argument qu'il y a le meilleur tir du poignet. Sa dégaine est tellement rapide.
Rapidement, ça
Il
n'y
a pas besoin d'espace pour dégainer.
Puis il est précis.
Il est précis.
Il est tellement précis.
Ah ouais, honnêtement, je suis impressionné. Puis Celebrini, ben moi, il a le même moule que Crosby, il a le même moule que MacKinnon, un centre responsable, productif. Il est malade, c'est un leader.
Qui aurait cru qu'on aurait une course au Hart Cross avec Bedard et Celebrini inclus?
Non, personne.
C'est vraiment un retour dans le passé. Là. On retourne à 2005, 2006, 2007, quand Crosby et Ovechkin sont débarqués dans la Ligue, puis instantanément, ils sont devenus des super vedettes. Là. Ils ont changé leur franchise. Mm-hmm. Les franchises qui tournaient en rond, qui étaient en reconstruction, eux sont débarqués. Là, puis...
Mais Bedard, c'est pas instantanément.
Il y a même c'est quand même sa gens... troisième année.
Non, il y a même eu des gens qui ont eu le temps de dire « Oh, il n'est pas si bon que ça, finalement ».
Ouais. Ouais, mais ça reste que c'est sa troisième année. Là.
Non, mais moi, je suis full d'accord avec toi. C'est juste parce que Crosby a fait quoi, 100 points sa première année, puis 120 à sa deuxième.
Il a gagné le Hart Trust à sa deuxième Crosby.
Mais c'est parce que qu'est-ce qui a été impressionnant, c'est que Connor Bedard est arrivé avec les Blackhawks où il y avait absolument rien.
Il
n'y
avait rien.
Il n'y avait même pas de présence de vétéran. On est allé chercher Nick Foligno à sa deuxième année.
Et Corey Perry.
Macklin Celebrini.
Ça a mal fini, Corey Perry.
Ouais, exact.
Un peu oui.
Macklin Celebrini a eu Joe Thornton qui a serré la main quand il s'est fait drafter. Il reste chez lui. Son père, il est vraiment impliqué dans cette région-là des États-Unis, juste avec les Warriors de Golden State.
Préparateur physique.
Puis tu sais, il y avait beaucoup de monde sur son aile. Tyler Toffoli était là dans l'alignement. Ça l'a vraiment aidé. Et il s'est comporté très bien rapidement. Ce qui a fait en sorte que le spotlight était sur lui directement. Les gens ont eu le temps d'oublier Connor Bedard. Et là, Connor Bedard produit avec une meilleure équipe des Blackhawks. Et on est en train de retrouver un peu le hype qu'on avait à sa dernière année avec les Pats d'Origina, où il cassait tout. Je dis pas qu'il est en train de tout casser, mais en ce moment, ça augure très bien pour son début de saison.
Ouais, puis tu sais, n'oubliez pas qu'il y a eu une coupe de coach aussi là, à travers ça. Là.
Mm-hmm. Luke Richardson,
Anders Sorensen, là, c'est Jeff Blashill.
Ouais.
Tu sais, maintenant, on vient d'en parler, là, à quel point un entraîneur-chef peut avoir un impact important sur ton développement. Je comprends que Connor Bedard, il a pas 8 ans, là, il est pas moustique ou pee-wee, là, mais quand même, c'est énorme, c'est majeur. Clairement, il faut donner un peu de crédit à Blashill à travers ça.
Puis ce qui est décevant aussi à travers tout ça, c'est que ces joueurs-là ont été repêchés dans les mêmes QV que le Canadien faisait sa reconstruction. Le Canadien a été un petit peu malchanceux puis il n'a pas pu les avoir.
Normalement, parce que le Canadien a décidé d'avoir du hockey élite de Rem Pitlick, de Mike Hoffman, de Raphaël Harvey Pinard, de...
Toi, on dirait que t'as genre une poupée vaudou de ces gars-là, genre.
Il me tape, c'est toujours, c'est mon go-to, man.
C'est élite.
Sérieux, ça me fait capoter en 2023, pourquoi est-ce qu'on performait autant?
Je regardais ça tantôt, là.
Quatre attaquants élites.
Ben, non seulement t'avais quatre attaquants élites, là, mais de plus en plus, tu regardes... Puis les gars choisis derrière David Reinbacher, là, de la façon dont c'est parti, ils vont avoir des pas mal plus belles carrières. Là.
Ben là, oui.
Tous les gars choisis derrière lui commencent à s'établir dans la Ligue nationale de hockey. Sauf Daniel Booth qui a été pris comme 12e.
Ah, pas Daniel Booth, excuse-moi, si m'achève. J'ai dit Booth, mais...
Ben, il joue quand même un petit peu avec, avec Utah, tu sais.
Il est pas du tout dans le calibre des autres joueurs de cette tas-là.
Il est en avance sur Reinbacher.
Ah oui, oui.
Ben oui,
Il joue des bonnes minutes avec Utah. Mais tous les autres, même un Nate Danielson qui a été pris 9e par Détroit, il commence à faire sa place. Là.
Ouais. Il a fini à marquer un deuxième, mais il a été refusé pour avoir...
Regarde, 6e, Simashev est à 19 matchs joués. Mishkov, 98. Leonard en a 28, Danielson en a 5, Dvorsky en a 12, Villander en a 11, puis tu tombes à Daniel Butte à 12. C'est le seul après Reinbacher, 5e. C'est les deux seuls dans le top 12 qui n'ont pas encore joué de match.
Mm-hmm. Mais un peu. Il y a deux choses là-dedans. Un, tu évalues la qualité d'un repêchage 5 ans après.
Oui.
T'sais, c'est pas le premier qui se met dans le tas qui devient nécessairement le meilleur. Fait que ça veut pas nécessairement dire qu'il faut abandonner avec David Reinbacher.
Non.
Et deux, au repêchage en 2023, oui, il y a des gens qui réclamaient Ryan Leonard, évidemment, il y a des gens qui réclamaient Matvei Mishkov, mais il y avait vraiment un consensus élite pour Bedard, Carlson, Fantilli et Smith.
Oh, ouais.
C'était vraiment un 4 qui se détachait du lot et tu ne voulais pas repêcher 5. Mm-hmm. C'est sûr que tu veux repêcher 5 par rapport à 25, là, mais à 5, tu avais une grosse décision à prendre. Et le Canadien, cette année-là, alors que l'année dernière, on avait terminé dernier, puis qu'on avait repêché premier. Mais si on avait pu, je sais que c'est plate à entendre, mais si on avait pu enchaîner une autre mauvaise saison, mais au moment où on se parle, on ne serait pas en train d'aller chercher notre deuxième centre.
Non.
On aurait un top 6 ou est-ce que ce serait complètement différent?
Ouais,
c'est juste ça qui est un peu frustrant à travers ça. Mais regarde, le passé est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et peut-être que David Reinbacher sera un excellent défenseur droitier. Mm-hmm. C'est juste que pour l'instant, c'est pas le cas.
Mais puis aussi, cette année-là, c'était, je pense, la meilleure option en défensive qui était disponible. Là, si je me trompe pas, c'est Utah. Ben, c'était les Coyotes dans le temps qui repêchaient tout de suite après puis ils ont smashé.
Ouais.
Mais je pense que c'était Reinbacher dans leur choix numéro 1.
Ben, clairement. Reinbacher avait une belle valeur. Là, le repêchage suivant, Barry Trotz, ou c'est ce repêchage-là directement, Matthew Wood puis Askarov pour le 5e choix au total.
Ouais.
Puis finalement, Kent Hughes a décidé. J'ai dit Matthew Wood, mais Matthew Wood n'était pas encore repêché.
Non, c'était le choix qui est devenu Matthew Wood.
C'est le choix qui est devenu Matthew Wood. Tu sais, il y a eu quand même une coupe d'offres. Kent Hughes n'est pas le seul qui trouvait David Reinhardt intéressant.
Non, c'est ça.
Là, n'est pas le point. Là.
Exact.
Je parlais tantôt du Art Ross, puis un peu plus tôt, il y a une couple d'épisodes, tu nous as dit, Oli, si vous pouviez inventer d'autres trophées.
Ouais.
Ce serait quoi?
Ouais.
Puis j'ai eu un flash quand j'ai vu passer Vladimir Guerrero qui a gagné Performer of the Year,
mm-hmm.
comme celui qui a été l'athlète spectaculaire de l'année. Puis je me suis dit, il y a peut-être des trophées, pas nécessairement des trophées sérieux, mais dans un genre de sous-gala, mm-hmm. quelque chose d'intéressant.
Un off-gala.
Quelque chose d'un peu plus pour le web.
Ouais.
On pourrait peut-être faire quelque chose du côté de la Ligue nationale de hockey, le joueur le plus flamboyant de l'année, ça pourrait être cool. Ou juste tout simplement, le but de l'année, l'arrêt de l'année, la mise en échec de l'année, le combat de l'année, le match de l'année.
Ben oui.
Tu sais, il pourrait avoir plusieurs petites catégories comme ça, l'acquisition de l'année. Tu sais, le directeur général qui a fait une grosse transaction ou qui a fait une grosse signature d'agent libre. Imaginez, là, pas quelque chose d'autant prestigieux que le gala à Vegas, puis que là, les vidéos, puis toute grande affaire, mais quelque chose plus fait pour le web, où est-ce que tu vois les finalistes, mettons, là, un comité là, a ressorti le 15 buts, puis là, finalement, voici le but qui gagne le but de l'année. Tu sais, je pense que ça pourrait être un bel ajout pour la Ligue nationale.
Ah, je suis d'accord avec toi qu'on est comme un peu dû, là, tu sais, pour... C'est avoir ça. Peut-être des petits trophées pour renouveler ça. Tu sais, l'échange de l'année, ça pourrait être le prix Anthony Desrosiers, par exemple.
Ouais, exactement. Non, mais
bien sûr.
ça rentre dans le speech de justement là, la LNH qui change un peu, puis qui est un peu plus, pas inclusive, mais qui est un peu plus moderne, puis tu pourrais impliquer les partisans là-dedans, voter, puis
ça peut être intéressant. Moi, j'ai travaillé à la télévision là, avant de travailler en radio, puis j'adorais l'image. Là. On passait notre temps à faire des tops, puis à mettre de l'avant.
Oui.
Puis même à Dave Morissette, on avait le jeu du mois. Et là, on mettait 5 jeux du Canadien, des buts spectaculaires ou des arrêts de Price, et on hissait une bannière au plafond du studio de Dave Morissette avec le jeu du mois de novembre, bon. Raphaël Harvey-Pinard, ou peu importe.
Ouais.
C'était cool quand même, de pouvoir. C'était très visuel. À la radio, on ne peut pas faire ça.
Ben
c'est pour ça que ces idées-là, je ne les amène pas ici, c'est un peu ridicule. Mais la Ligue nationale de hockey aurait tout intérêt, je pense, à se servir de ces médias, puis ça faire parler, puis ça ferait voter, puis ça les gens pourraient interagir, puis tu peux rentrer le vote des fans à travers ça.
Absolument. Absolument, c'est super intéressant.
C'était ma suggestion de la semaine.
J'adore ça. J'aime ça. On est-tu rendu à nos radars?
C'était mon radar.
C'était ton radar, OK. Ouais. Je vais y aller avec le mien. J'ai vu ça passer hier. Zane Parikh, qui a été prêté à l'équipe Canada junior par les Flames pour le prochain championnat mondial junior. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe Canada, parce que vous allez voir, ils vont avoir besoin de toute l'aide possible. Bon, déjà depuis le début de l'année, t'as le fils d'agriculteur Brady Martin aussi qui a été retourné au junior, Jet Luchenko, Braden Coutts aussi. Par contre, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de gars d'équipe Canada junior qui vont pas être avec l'équipe Canada junior puis qui sont toujours dans la ligue. Évidemment, Michael Celebrity, pas une chance, mais Michael Misa, Sam Dickinson, Harrison Brunicki et Ben Kendall avec les Pingouins, Matthew Schaefer, la bonne nouvelle, Zane Parikh, Beckett Senecki. Je sais pas à quel point cette équipe canadienne-là va être capable de compétitionner tant que ça, si tu perds autant de joueurs de talent. Là.
Ouais, mais Gavin McKenna.
Ouais. Gavin McKenna va être là.
Justin Poirier. Justin Carbonneau. Tu vas avoir quand même. C'est juste...
Je te nomme, par exemple, le top 6 projeté là, qu'on a en ce moment, puis tu verras, c'est pas si impressionnant que ça, OK? T'as Gavin McKenna, premier trio, avec Porter Martone et Berkeley Catton.
Okay.
Le deuxième trio qu'on met, c'est Liam Greamtree, Michael Age et Braden Coutts.
Ah, c'est tous des premiers choix.
C'est bon, ça.
Ouais, quand même
c'est
très
pas
bon.
Non plus.
C'est pas parce que c'est pas des gars sexy, mais Liam Greamtree, c'est un excellent joueur.
Yeah, ouais, puis Greamtree a roulé sa bosse quand même dans le junior, dans OHL.
C'est pas si pire que ça, pour vrai.
Ouais.
C'est quand même bon.
Ouais.
Moi, je suis... OK, je comprends là, que ça n'a pas le lustre de tous les joueurs que tu as nommés au préalable, là, mais...
Mais ça va faire la job, puis ça rentre aussi dans le profil de Dale Hunter. Là. Il veut des gros gars qui frappent, qui ont du talent. Ça va vraiment être différent que l'édition de Dave Cameron.
Ah, ça c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir Michael Age dans cette compétition-là.
Exact. Ouais. Moi aussi, parce que c'est quand même un gars de skills, c'est quand même un gars aussi qui joue dans la tête de ses adversaires. Est-ce que vous avez vu la vidéo de lui qui chirp les deux autres gars? Je ne sais plus c'est quel match, mais quand il jouait à l'extérieur, c'était lui et un autre gars de Michigan en boîte des pénalités.
Ah oui,
ils sont en train d'insulter les deux autres gars dans la boîte.
Ouais,
dans l'autre boîte. Ouais, ouais, puis il était intense. Là.
Parce qu'en plus, il brûle pas mal à NCA. Là,
très
surtout,
fort.
Bon, beaucoup de points contre des équipes plus faibles, mais là, ça va être je pense que ça va être enfin un bon test pour Michael Hitch. Puis ça va être l'occasion aussi pour beaucoup de partisans du Canadien qui n'ont pas pu le voir dans la NCA de finalement le voir compétitionner à un haut niveau contre les États-Unis, contre la Suède, contre la Finlande.
Le terme brûle, par contre, c'est un peu fort. Là. Il y a
comme 2 points par match, mais comme j'ai dit, c'est contre beaucoup d'équipes plus faibles.
C'est ça, c'est ça. Exact. Parce qu'il a été muté à l'aile, parce qu'à certains moments, on trouvait qu'il n'était pas assez impliqué. Puis on voulait qu'il soit différent dans son approche, parce qu'en centre, t'es peut-être un peu plus replié. Là, il vient d'être replacé au centre. Fait. Encore, Michael Age, là, c'est encore un projet. Continuons à le développer tranquillement et éventuellement, on espère qu'il s'aidera.
Il ne sera pas le deuxième centre du Canadien l'an prochain. Là.
Non, c'est sûr.
Non, mais il pourrait jouer avec le Canadien l'année prochaine.
Oui. Mm-hmm. Peut-être même dès cette année.
Peut-être, oui. Ça ne serait pas impossible. On verra si le Canadien est dans la course et si on a besoin d'un match important. Mais si jamais c'est plié et qu'on veut lui donner un bonbon, pas impossible, effectivement, qu'on le voit faire le saut dès cette année dans la Ligue nationale. Les gars, la semaine passée, on a parlé de la Coupe des Quatre Nations. Puis là, on parlait de McKinnon contre McDavid.
Ouais.
Et j'ai dit, ben, hey, McDavid, il avait été bien meilleur que McKinnon à la Coupe des Quatre Nations. Puis, tu sais, des fois, notre podcast, c'est... Vous le remarquez, là, on passe du coq à l'âne parce qu'on se fait penser à quelque chose et on embraye les sujets.
Ouais.
Ben, j'avais complètement oublié que McKinnon avait gagné le joueur du tournoi. Mmh. Et c'est un auditeur qui me l'a écrit sur le YouTube. Alors, mes excuses à Nathan McKinnon. Il a connu un très bon tournoi à la Coupe des Quatre Nations et j'espère qu'elle sera tout aussi efficace à la, aux Jeux Olympiques un peu plus tard.
Il va être excellent.
En février. Là, il va être très bon. Je pense qu'il va être très, très bon.
Est-ce que vous avez vu, il y a déjà des line-up projetés d'un peu partout, mais on les voit là, les line-up projetés de l'équipe olympique de partout. Mais j'ai vu le trio, c'était Marner, Celebrini puis McDavid, le premier trio.
Ça patinerait ça.
À date, c'est malade ça. Crosby jouerait avec McKinnon.
Crosby a demandé à jouer avec Marchand. Hein. J'ai vu ça passer.
Ah, puis c'est Marchand, ouais, c'est Marchand.
Les gars de Nouvelle-Écosse.
Puis le troisième trio, ça serait Nick Suzuki au centre de Brandon Hagel puis Braden Point.
C'est solide et responsable.
Exact.
Ça dérange un petit peu.
Un petit peu. C'est pas pire quand même.
Et out. Ça va être bon les Olympiques.
Ouais, ça va être
s'en
bon.
Vient, mine de rien, c'est dans à peu près 2 mois et demi.
Exact.
Ça va être le fun, ça.
S'en vient.
Ouais, j'ai hâte de voir cette équipe-là. En fait, ça va être la confrontation États-Unis-Canada, ça va être probablement. Mais là, il y a McAvoy de blessé, mais ça va être la meilleure attaque ou la meilleure défensive du tournoi. J'ai hâte de voir.
Ouais, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'ici là.
C'est vrai.
À vitesse que les blessures tombent dans la Ligue nationale de hockey, là.
Ouais, surtout
il va encore manquer des vedettes. Là,
t'es à un flat de blessé pour 6 mois. Là. Fait que faut que tu fasses attention parce que les gars, ils se blessent à rien en ce moment.
Ouais,
là.
C'est sûr. Ah, mais tu sais, Jack Hughes, il va se citer à 100%?
Ouais, c'est sûr que non.
Les Kachuk.
Hâte de voir. Hâte de voir Brady qui va revenir la semaine prochaine. Encore une fois, cette semaine, on avait des mots de cachés dans le podcast. Bravo Olivier qui n'est pas parti à rire en disant le sien.
Je suis passé proche.
Ouais, on a.
T'as été bon aujourd'hui en passant. Très bon.
Je suis passé vraiment proche.
Ouais. Très, très bon.
Alors que c'était super facile.
Ouais, puis pour vrai, tu l'as bien placé. Ouais,
très, très bon.
Je suis fier de toi. J'ai entendu vos mots respectifs. Et par contre, la semaine dernière, encore une fois, je n'avais pas entendu celui d'Hugo. Hugo, tu avais impair,
mm-hmm.
que tu as réussi à placer avec habileté. Ali, tu avais sablier.
Ouais, c'était pas facile quand même.
Ouais. Moi, j'avais qui s'est complètement raté. Un échec monumental.
C'était très drôle.
Vous pouvez aller justement revisionner à l'instant où est-ce qu'on avait placé les mots de la semaine dernière.
Un peu comme j'ai dit tantôt, tu dois pas te retrouver avec un chiffre impair. Tout le monde qui est avec tout le monde en paire de deux. Mettons, tu vois Kapanen qui a bien solidifié Demidov, Goulet avec Hudson au début, Caulfield, Suzuki. Tu as des pairings qui sont importants, des duos de joueurs.
Mon père disait tout le temps, imagine que tu es en mer, tu as les deux pieds sur un quai, mais faut que tu t'assures de mettre les pieds sur un autre quai avant de pouvoir prendre une décision. Sinon, ben, tu vas te retrouver entre deux eaux, puis là, tu vas te retrouver les mains vides.
Moi, j'aime beaucoup l'approche du baseball.
Ouais.
Tu sais, tu as 10 ans, là. On tourne le sablier, puis tu as 10 ans pour rentrer au temple de la renommée, puis il faut que tu récoltes ton 75%, et c'est ça qui est ça. Tu sais, puis c'est noir ou c'est blanc.
Alors, j'espère que vous pourrez trouver les mots de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et sinon, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Radar. Bye bye tout le monde.